Amis de Radio Silence, bonjour et bon dimanche. Nous sommes le dimanche 10 novembre. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok pour Radio Silence. Oh, j'ai pas la voix, il fait très chaud au Cameroun en ce moment et ça casse la voix parce que j'aurais pu commencer par chanter, mais vous savez, quand on a suivi Trump là pendant 4 ans, on arrive et qu'on sent la victoire arriver, on commence à s'épuiser un peu et moralement parce que, vous savez, les combats très longs, ça vous prend et vers la fin, vous êtes vanné. Vous êtes vanné parce que surtout quand vous savez que vous allez gagner, c'est comme un examen en fait. Parce que moi, quand je passais mes examens toute petite, je fais le BPC, je savais que c'est carton plein, j'ai cartonné, les mathématiques, ça tombait tout, les équations tombaient tout bien. Vous savez que vous avez réussi. Le probatoire, c'était pareil, c'est un examen, je ne sais plus si on le fait en France. Et le bac, idem. Bon, quoi qu'au bac, j'ai commencé, j'étais très dissipé hein, l'année du bac, c'est incroyable. Je sortais beaucoup, je m'amusais beaucoup. Je suis passé juste, juste, hein, vraiment, avec, je crois, 12 ans, je sais plus. C'était, oh là, une horreur. Si mon père avait su ça, il m'aurait tué parce qu'il fallait avoir. Hein. Mais à chaque fois, je savais quand j'ai bien fait. Et quand j'ai essayé de partir de l'université Lumière Lyon 2 pour la Sorbonne, à Paris, c'était après ce qu'on appelle le master, aujourd'hui la maîtrise. Je ne sais même pas ce que j'allais à la Sorbonne faire, mais bon, je ne sais pas. Oui, je fais un concours, je vais à la Sorbonne, mais je me suis embrouillé là. J'arrive à la Sorbonne, on nous fait un test. Il y avait déjà un monde fou, j'aime pas trop ce genre de situation. Et puis, moi, j'ai fait les arts, la culture, les beaux-arts, vous avez un peu, et puis j'arrive, on nous pose un truc sur. Évidemment, j'ai fait le cinéma, bien sûr, la télé, tout le monde connaît. Et après, on nous pose le sujet porté sur la publicité. Alors là, déjà que nos enseignants nous avaient dit à l'université, il ne faut pas regarder la télé. Et quand vous regardiez la télé, vous étiez considéré comme une tarée, donc il ne fallait pas dire qu'on a regardé la télé. C'était, il faut pas regarder la télé. Vous vous rendez compte, c'était les années 90 où les profs nous disaient de ne pas regarder la télé, c'était qu'un truc voilà, de MERD, DE, et que c'était pas bon, c'était que de la merde. Voilà. Et puis nous, on se disait, ben voilà, vous avez les jeunes, hein, on est fanatisés là, devant l'écran, comment on peut nous dire que. Donc nous, on regardait un peu comme en cachette, il ne fallait pas en parler pendant les cours, parce que non, non, il fallait lire les journaux. Libération à ce moment était très très fort, c'était conseillé, c'était Libération et Le Monde, c'était conseillé comme une ordonnance médicale. Voilà, il fallait tous les jours, d'ailleurs à la bibliothèque, ils achetaient les journaux, ces journaux-là en premier, et vous étiez obligé, c'était gratuit, consultation gratuite. On faisait donc un tour, tout le monde, pour la bibliothèque, c'est bien sûr la bibliothèque de l'université. Tout le monde faisait son tour là-bas pour lire les news de la journée de façon à ne pas être sous-informé quand même. Donc on a grandi. Quand vous aviez 2 fois 6 sous, bah, étudiant, vous achetiez le journal. Et si vous n'aviez pas bilan, j'avais un stock de journaux du monde incroyable. Si vous n'aviez pas, ben vous ne pouviez pas dire que j'ai pas pu parce que je n'avais pas de l'argent. Donc on lisait Libération et Le Monde obligé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Libération et Le Monde qu'on lisait à ce moment-là, qu'on nous imposait, bien sûr, il y avait beaucoup de vie culturelle hein, dans les années 90, après Mitterrand. On pensait, je veux dire, d'un côté, le prof ne peut pas nous dire, ne regardez pas la télévision. Mais vous devez lire les journaux, comme si c'était différent. Vous voyez, la presse était noble, et puis les médias, l'image, un peu, c'était l'école de Platon, il ne faut pas regarder ça, c'est le monde à l'envers et tout. Et au final, pour arriver à la grande nouvelle du jour, c'est-à-dire la victoire de Trump, au final, on voit que, ben, entre la presse papier et la presse radio-télévisée, il n'y avait aucune différence. On était dans l'illusion d'une différenciation. C'était un leurre, en fait. Donc, même mes profs sont tombés dedans, mais ils n'ont pas tombé dedans. C'est que c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué. C'était assez. C'est pas, on peut pas dire paradoxal, mais c'était à la fois une vérité et un mensonge. En fait, ils se voilaient la face eux-mêmes, ces profs, parce que eux, les gens de gauche, forcément, quelque part, la gauche aussi, elle a acheté hein, les enseignants, puisque quand Mitterrand est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revalorisé les salaires des. Pardon, les salaires des enseignants d'université en particulier. Et donc, du coup, il les a annexés à la cause de la gauche. Donc, ces intellectuels de gauche qui conseillaient donc la presse de gauche, forcément, ça faisait quelque part le contrepoint parfait à ce qui nous interdisait de regarder, c'est-à-dire la télévision. C'était le même groupe. Et cette affaire-là, en gros, en France. Ça va, je passe par la France parce que ça va mieux éclairer ce qui se passe en Amérique. En France, ça date d'après 1968, où la gauche prend une ascendance, puisqu'elle a fait son coup d'État contre le général de Gaulle, soi-disant c'était trop rigide, les républicains, enfin les républicains, c'était quoi là, avant l'UMP, je ne sais plus ce que c'était, et qu'il fallait. Faire en sorte que toute cette société patriarcale là, soit un peu s'assouplisse. Tout ça, on disait pas déjà le projet de féminisation des hommes. Et il fallait un peu, c'était trop rigide, il fallait un peu dérigidifier, il fallait un peu fluidifier le papa. On a commencé comme ça à déclasser le papa et le masculin en fait de la société et pour la rendre plus intéressante. Bon, enfin plus intéressante, plus romantique. Puisque c'est là que commence aussi une certaine narration qui va aller à l'encontre de tout ce que Trump représente, tout ce que les républicains représentent et la droite en général, parce que la droite, elle a une tradition aristocratique, une tradition militaire, une tradition du pouvoir. Donc on se dit non, c'est trop rigide, on n'est plus dans ça. Maintenant on est dans le progrès, c'est les nouveaux thèmes qui sont apparus avec la gauche. On est dans l'égalité, on est dans quelque chose dans la danse. Hein. Vous voyez, la culture a pris une autre tournure. On interdit, on disait il est interdit d'interdire, on n'interdit plus rien, il n'y a plus d'interdit. Donc la religion commence à prendre, à battre de l'aile, vous voyez, à prendre un coup dans l'aile, on ne s'en rend pas compte. Et on est dans cette mouvance-là. Bien sûr, il faut remplacer les symboles, les grands symboles, et c'est là où le cinéma va exploser, la télé suivra après. Et les stars vont remplacer donc tout ce qui était généraux, colonels. Il n'y a plus de guerre, bien sûr, ça va de pair. Mais on rentre, bien sûr, c'est après Hitler, c'est très joli. Il y a donc ce roman socialiste et de gauche et démocrate qui s'est installé depuis 1990, précisément, et qui obéit à une narration. Cette narration, c'est de dire les autres avant la droite, c'était des gens un peu trop militarisés, donc on n'en veut plus. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des gens bien cultivés, des gens relax, des gens cool, des gens démocrates. Voilà, c'est là où vraiment la scission entre la démocratie et la République se fait de manière très très forte. La République, enfin les républicains, où la République c'est l'autorité, ce que Jacques Chirac représentait très bien, et les démocrates, façon Mitterrand, c'est la générosité. Alors vous voyez, les grands clivages, l'autorité contre la générosité, c'est facile de choisir hein, sur le plan du récit déjà. Et de, vous voyez un peu de la symbolique et de la chanson, j'ai envie de dire, qu'il y a derrière. Bien sûr qu'on va aller vers la générosité, mais alors curieusement, cette générosité démocratique, elle est anti-religieuse, alors que la générosité, c'est je veux dire, c'est religieux, c'est profondément religieux. Et on va déconnecter cette générosité de l'État, de la générosité de la religion qui reste, qui va rester aussi un peu rangée du côté de la République. Bon, alors, le récit, c'est ça devient ça. La générosité, c'est pour les démocrates. Et puisque il faut avoir les intellectuels avec soi, la bien-pensance devient démocrate et de gauche. Tout change. Et en fait, ça paraît très joli, mais derrière, au fur et à mesure que ces choses-là se construisent, on va faire un saut dans le temps et arriver à Trump. On arrive à ces derniers temps, d'abord en 2016. 2016, Hillary Clinton contre Trump, c'est déjà très. Enfin, l'invasion, on va dire comme ça, pour ne pas dire l'intrusion de M. Trump dans le politique, a créé quelque chose comme un tremblement de terre. Parce qu'entre-temps, ce que la gauche n'a pas dit, c'est qu'elle se constituer une noblesse d'État qui se substituait donc à la noblesse décorative, là, militaire et tout, sans le dire. C'est ça les grandes écoles en France, par exemple, qui font que, après, c'est les mêmes qu'on retrouvait dans les grands postes de l'administration, les grands postes du parti politique, et puis après les grands postes de gouvernementaux, etc. Donc il y a une reproduction, comme Bourdieu, Pierre Bourdieu l'appelait, une reproduction sociale qui a favorisé ce qu'il appelait les héritiers. Donc, quelque part, ce qui se présentait comme une générosité était en fait un coup d'État déguisé, puisqu'une noblesse d'État remplaçait la noblesse précédente, la noblesse, je vais dire militaire, mais j'ai pas bien le terme là pour le dire, et royaliste. Voilà, donc c'est vraiment c'est la deuxième révolution qui se fait à ce moment-là. Les nouveaux rois arrivent, les nouveaux princes, ce sont des princes démocrates, bien sûr. Ce sont des princes qui sont anoblis par les grandes écoles, les grandes universités, et oui. Et puis ce sont les princes qui sont anoblis par la culture cinématographique qui apporte les grandes stars et les grands producteurs. Bien sûr, la World Music a suivi là-dedans, les princes, Dixit P. Diddy. Et tout ça passe très bien parce que y a toute une culture qui arrive, le sport accompagne tout ça, les stars partout. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est des nouveaux princes qui remplacent les anciens princes. On ne dit pas ça comme ça. On vous dit non, 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 il y a une narration qui entoure tout ça. Les médias sont pratiquement gratuits, vous voyez. La télévision surtout, parce que la presse, il faut l'acheter. Et c'est comme ça que la télévision prend un essor important parce qu'elle est gratuite, elle a l'air démocratique, forcément, parce que tout le monde y a accès. L'université devient démocratique parce que c'est plus comme avant où il y avait la sélection. Non, 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 tout le monde peut y accéder, moyennant quoi on arrive à beaucoup d'impasses. Et ce roman, cette narration, apporter ce roman-là d'une gauche vraiment irréprochable, d'une gauche exemplaire, d'une gauche généreuse, d'une gauche qui distribue, d'une gauche de la redistribution, du partage, les allocations, enfin, tout ce que vous voulez. Et le RSA, c'est le point culminant de tout ça, qui était le RMI avant, emmené par Michel Rocard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette gauche s'est rendue, a eu mauvaise conscience, parce qu'elle a bien vu qu'elle a. Reconstituer ce qu'elle reprochait aux autres. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il faut faire beaucoup plus de social. C'était le RMI de Michel Rocard. Et bon, les républicains n'ont pas su vraiment comment répondre à ça parce que, effectivement, un coup d'État, c'est un coup d'État. Vous avez perdu, vous ne pouvez plus suivre. Du coup, depuis, le discours politique dominant est porté par la gauche. Et les démocrates aux États-Unis, c'est la même chose. Et dans ceux de la droite, ils courent derrière, ils courent derrière. Qu'est-ce qu'on voit avec cette campagne? Parce que cela est allé en se compliquant et au final, quand vous criez une noblesse princière, vous avez beau élargir l'assiette, comme on peut dire, mais à un moment donné, ça reste petit par rapport à restreint par rapport à la population qui s'accroît. Et à un moment donné, ça commence à se voir parce que les gens commencent à souffrir, commencent à souffrir. Et c'est peut-être pour ça qu'on a essayé un peu le corona, vite fait, le Covid, pour essayer d'en éliminer plusieurs, pour avoir la marge, de la marge. Mais ça commençait, c'est arrivé un peu tard. C'est arrivé un peu tard parce que beaucoup de choses commençaient à se voir. Comme quelqu'un a dit, tout pouvoir corrompt inévitablement et surtout le pouvoir absolu. Parce que c'était ça que c'est devenu, devenu absolu. Pourquoi? Parce que les médias n'invitaient plus que ces intellectuels de gauche, ces hommes culturels, on va dire, cinéma, c'est tout et tout que vous savez, de gauche. Entre-temps, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la peinture, voilà, elle est retombée comme ça, on n'a pas vu beaucoup. De gauche, tout le monde qui arrivait dans les médias était de gauche, dont la parole était monopolisée par les représentants et les adeptes de la gauche. Vous voyez, ça ne se voit pas comme ça, mais c'était ça, de cette noblesse d'État, des nouveaux héritiers, bien sûr, auxquels il faut ajouter donc les Bernard Arnault, toute cette mouvance de financiers qui ont suivi la vague, mais qui viennent aussi pour beaucoup de ces grandes écoles. C'est curieux, hein? Ils se sont partagés le gâteau. Ça fait, je vous dis, on a élargi l'assiette, mais ça reste les mêmes. Alors, en avançant, les faits aidant, quand Jacques Chirac arrive, c'est là où ça commence à vraiment se voir beaucoup, il diagnostique ce qu'il appelle la fracture sociale. Alors, la fracture sociale, c'est un grand moment en 1995, quand il fait cette. Vous voyez, ça date, hein, quand il fait cette. Comment on va dire? C'est pas une analyse, mais bon, c'est un peu comme si. Ah, j'ai pas le mot qui me vient là en tête pour le dire, mais c'est un peu comme une sentence qui dit il y a une fracture sociale réelle, et qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Raffarin avait dit la France d'en haut, ex-premier ministre, pour ceux qui ne savent pas, la France d'en haut et la France d'en bas. Il y a une fracture sociale, comment la réparer? Alors, c'est intéressant parce que on rentre maintenant dans les questions qui se sont posées avec l'élection de Trump. C'est que les médias ont commencé, alors sacrilège, hein, comme on dit, tout pouvoir corrompt. Donc, ils ont commencé à nous imposer des présidents, à nous imposer des hommes politiques sans qu'on le sache, parce qu'au début, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on fait passer certains et on ne fait pas passer d'autres. Alors si on ne vous fait pas passer, vous êtes dans l'éteignoir, vous devenez invisible. Donc ce sont eux qui choisissaient ceux qui avaient accès à la visibilité et ceux qui n'y avaient pas accès. Alors c'est déjà facile, ils ont compris le truc. Et quand on choisissait de promouvoir telle ou telle personne, parce qu'on veut que ce soit telle qui soit présidente ou, je ne sais pas, ministre de quoi et quoi, ils choisissaient leurs agents et les médias ont pris cette ascendance. Donc du coup, on imposait les présidents aux gens, on s'en rendait pas compte. Bon, ils ont joué le coup avec Mitterrand. Contre Giscard. Mitterrand est passé parce qu'on a diabolisé Giscard, proprement avec les diamants de Bokassa. Avec Jacques Chirac, ils ont voulu répéter le coup. Là, c'était contre M. Balladur, qui a d'ailleurs introduit en même temps la trahison à un degré terrible en politique. Et Jacques Chirac, contre toute attente, il a tenu bon. Il a tenu bon. Et Balladur, qui est annoncé grand vainqueur, empereur et tout, bah à la fin, il passe pas. Déjà là, 1995, on commence à tricher. Les élections commencent à tricher. Ça se voit pas trop. On se dit non, mais c'est une bataille de mano à mano. C'est comme ça que les médias nous présentent ça. Mais en fait, c'est déjà cette matrice qui va continuer. Jusqu'à aujourd'hui, à l'élection de Trump, c'est ça qui va s'appliquer partout, en France, aux États-Unis, que moi je suis particulièrement, les autres pays, je ne regarde pas trop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Chirac passe. contre toute attente. Jacques Chirac passe, et quand il passe, ça temporise un peu les choses, parce que Jacques Chirac, c'est... voilà, le RPR, cherchez le mot. Le RPR devenu l'UMP sous Sarkozy. Jacques Chirac avait le RPR, le parti gaulliste, et il a encore un côté paternel, très patriarcal, hein, comme pouvoir, descendant de Gaulle, bien sûr. Donc on vit ça, on est dans une transition sans s'en rendre compte, parce que lui, il a résisté avec Philippe Séguin jusqu'au bout à ses... à cette matriarcalisation, si on peut dire comme ça, de la politique. Il n'a pas voulu de ça. Ce sont des gens qui sont nés dans une autre époque, ils ont une autre façon de voir les choses. Ils ont résisté, mais bon, l'euro a eu raison d'eux, l'Europe a eu beaucoup eu raison d'eux. Et l'Europe passe pourquoi? Parce que là aussi, les médias sont entrés dans une narration comme ça, oui, romantique, le peuple, on va tous aimer, ça va être la grande Europe, etc., etc. Bon, entre-temps, et c'est ça qui est probablement le plus important, c'est qu'ils installent quelque chose que moi j'appelle le standard divin, qui ne souffre d'aucune contestation, qui est donc parole d'évangile. Si vous êtes contre, vous êtes excommunié, vous ne devez que être pour. Et donc on réintroduit la vassalisation qu'on avait éjectée de l'autre côté. On réintroduit une forme de, comment je vais dire ça, flagornerie, parce que c'est ça qui va vous permettre hein, d'avancer facilement. Et le mérite, on l'évacue comme ça progressivement. On évacue aussi tout ce qui est identité singulière, les idiosyncrasies, comme on dit. On évacue tout ça. On veut des gens qui sont conformes, une sorte de nouvelle armée, voyez, ce qui arrive, qui aboutit aujourd'hui à ce qu'on appelle les clones. Vous devez penser pareil, la police de la pensée arrive, et quand la police de la pensée arrive, c'est aussi la police de la promotion, hein, il y a l'aiguillon, vous passez par des tuyaux bien précis, et c'est aussi finalement ce qui va être terrible, la censure. La censure, ça va. On ne la voit pas très bien, mais au fur et à mesure que les gens sont rejetés comme ça, des médias parce qu'ils ont eu un propos dissonant par rapport à la parole d'évangile qui est édictée par le standard divin, si vous voulez vous appeler ça le code divin de gauche, venant à la gauche, qui est anti-religieuse, c'est prodigieux. On a vécu cela jusqu'en 2016. Trump arrive, il casse la baraque et il nous rapporte un terme fabuleux. Les fake news. Ah, les fake news. Ah bon, donc c'était pas vraiment une presse, c'était une presse aux ordres. Ah bon, ça a commencé là. Et forcément, vous voyez bien que c'était l'homme à abattre depuis. Et donc, en 2020, il fallait voler l'élection, obligatoirement. Et c'est la revanche, cette élection de 2024. La revanche de Trump, qui montre très bien, déjà en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Biden n'a pas fait campagne. Parce que les médias ont fait campagne à sa place, les intellectuels ont fait campagne à sa place, tous ces gens de gauche, les activistes, etc., etc., ils sont nombreux, et puis le financier, qui ont fait la campagne à sa place, il n'avait pas besoin de parler. Il fallait juste dire, parce que c'est ça la narration aujourd'hui de gauche, vous êtes les divins, bien sûr, peuple élu, et les autres, forcément, c'est le diable, c'est le démon. Et donc, on finit par s'attaquer aux personnes, à la personnalité. Et c'est ce qui se passe avec Trump. On a sali son nom. Vous entendez dire, il n'est pas, comment ils disent, il est dangereux pour la démocratie. Ça, c'est les termes de Biden. Vous avez entendu dire dans cette campagne par Kamala Harris que ceux qui vont dans les meetings de Trump sont des nazis. Madame Clinton a ajouté, oui, nazi. Madame Kamala qui perd, alors. C'était écrit, puisque quelqu'un a dit Jesus is Lord dans un de ses meetings. Elle a dit, oh, mais attendez, c'est pas ici, hein, le meeting, vous trompez le meeting, ça doit être à côté. Là, il y a un petit meeting, voilà, avec le mépris, hein, un air dédaigneux. Il y a un petit meeting à côté, ça veut dire, si je me trompe, vous pouvez y aller. Ce jour-là, ils étaient ensemble dans la même ville. Un tel mépris. des choses, c'est incroyable. Et c'est des gens qui vont se dire après, quand ça leur plaît, ils vont à l'église, ils sont catholiques, bien sûr. Et vous avez donc ce côté-là, une censure qui s'abat, un mensonge, des attaques personnelles, et bien sûr des sujets tabous, on n'en parle pas, c'est les médias qui décident des sujets dont on parle et ceux dont on ne parle pas, ou alors ceux dont on, les sujets qu'on commente ou qu'on ne commente pas, ceux dont on tait, ce qu'on tait, ce qu'on ne tait pas. Tout l'agenda a été maîtrisé par les médias, et cette fois-ci, média évolution des médias sociaux oblige et d'un qu'on va appeler ça un journalisme citoyen, les choses ont changé parce qu'on s'est aperçu quand même du fait que ça va pas, ça va pas. Et à un moment donné, hein, ça dure. Et disqualification des médias, disqualification de tous ces intellectuels parce qu'ils sont de gauche. Tous ces experts sont de gauche. D'ailleurs, il y a certains, je ne sais plus dans quelle université, qui appellent déjà les élèves, les étudiants, c'est pas faire, ne plus faire ci, ne plus faire ci, comparativement par rapport à Trump, quelque part à ces régimes même contre. Ils ont juste peur. Sinon, ils n'ont pas peur. On ne sait pas. Quelqu'un a dit le calme, il faut attendre parce que peut-être que quelqu'un va se lever quelque part et puis ça peut partir comme ça parce qu'on ne veut pas de Trump. Il est trop dangereux. C'est ce que les enseignants ont à dire, voyez, contre Trump. Dieu merci. Il y a une justice ici-bas. Et Trump, il gagne haut la main. Il gagne haut la main d'abord parce que Madame Kamala Harris, oui, une fois qu'on a déclaré, qu'on a éclairci le paysage en dégageant les médias, les choses deviennent claires. Et puis, il y a eu tellement d'abus entre-temps. Ce corona-là a créé toute une histoire. Alors, on apprend des choses et des choses qu'ils auraient introduit des nanotechnologies à l'intérieur pour influencer notre ADN et tout. C'est très grave. Donc, toutes choses qui sont inacceptables. Et on arrive. Donc, un, Biden, c'est lui le nominé. Puis après, il n'est plus nominé. Kamala Harris, on la pose, on fait un coup d'État. Mais oui, le coup d'État est blanchi. Est blanchi, pardon. Il y a un génocide qui a eu lieu. Et bon, on est d'accord avec ça. Vous vous rendez compte, vous pouvez commettre un génocide et venir gagner une élection. Mais ça veut dire que le pays n'a plus aucune morale. On ne peut pas accepter ces derniers ce génocide. Vous avez vu, vous ne pouvez pas parler parce que l'ordre divin, la matrice divine a dicté que bah, c'était bon ou bien c'était pas important. Les autres, c'était des sous-hommes. Hein, on pouvait les goyim, on pouvait les tuer. Bon, tout ce standard-là fait que, à un moment donné, les gens ne sont pas des cons. Le verdict est tombé. Donc Trump, il gagne haut la main. Et notamment, il gagne l'élection dans les swing states. Tous les swing states sont à lui. Et ça, c'est formidable. Madame Kamala Harris est écrasée. Elle est écrasée. C'est normal. Elle est, bon, à son, comment on va dire, à son, pour sa défense, elle n'était pas préparée. Elle a pris comme ça le train en marche. Oui, mais quand on est vice-président, normalement on est censé suivre tout cela. Quand on te dit prends le train en marche, ben, il faut te préparer. Hein. C'est ce qui se passe avec Madame Harris, candidate faible, parce que depuis sa façon d'arriver là est conforme à ce que la matrice de gauche avait prévu. Ce qui se passe avec elle, c'est qu'on a oublié aussi qu'elle a été procureure et qu'elle n'a pas arrêté d'emprisonner les Blacks. Elle a oublié, hein. Il n'y a pas de mémoire. Ces gens-là, ils pensent qu'ils sont impunis. Pour un oui ou pour un non, elle a participé au système carcéral raciste de l'Amérique. Et donc, elle ne peut pas venir aujourd'hui et dire qu'elle est blanche comme neige. Elle ne pouvait pas avoir le vote noir, sauf un vote noir désespéré, bien sûr. Et après cela, elle ne peut pas non plus avoir le vote des chrétiens. Et bravo aux chrétiens, parce que franchement, moi, je crois qu'entre eux et malheureusement les morts palestiniens, ces deux éléments ont pesé parce que le vote arabe, arabo-musulman, et le vote chrétien est venu sauver tout cela. D'autant qu'on sortait de quoi? On sortait de, vous savez, les Jeux Olympiques, hein, de Paris. Quand on sort de là, Et avec tout ce qui s'est passé, il loge au satanisme. Donc, évidemment, les chrétiens ne pouvaient que se lever comme un seul homme et venir sauver ce qui est encore sauvable. Et enfin, sauver Trump qui, pour le coup, représentait vraiment l'avenir sur tous ces points-là. Bon, bilan, on nous dit aujourd'hui, Trump a eu, je ne sais pas comment il calcule, hein, parce qu'il y a le vote populaire, il y a les grands délégués, je ne sais pas tout ça. Bon, tout ce collège, mais bon, Trump, il est vainqueur pour quelqu'un qui est dangereux pour la démocratie. Oh la main, la victoire. Normalement, on doit chanter. Je ne sais pas, on doit être très content. Oh. Mais à un moment donné, on est épuisé parce que ce fut très long et honneur au président Trump. Franchement, tout ce qu'il a fait pendant 4 ans, une campagne de 4 ans, c'est incroyable. Qui aurait pu le penser que M. Trump pourrait faire une campagne? Je veux dire, quelqu'un à qui qu'on a humilié publiquement, il viendrait et puis c'est pas un comeback, c'est vraiment une leçon politique que Trump nous donne, une leçon de, je ne sais pas si c'est la résilience, la combativité, mais c'est héroïque ce qu'il fait, c'est héroïque parce que il a lutté contre tout ce système que je vous ai décrit, qui était quelque chose comme un mur infranchissable, mais il a pu le démonter par la foi. Par la foi, vous vous rendez compte, quand on dit que la foi déplace les montagnes, ben voilà un exemple parfait, une illustration parfaite de ce que la foi peut faire. Trump a déplacé les montagnes, et ça, c'est. Les chrétiens ne pouvaient que suivre et venir et applaudir. Et Dieu merci, le LGBT et tout, on n'a rien vu de ça. Quand on faisait le mariage pour tous, Hollande nous a fait ce truc-là. On disait, les chrétiens sont sortis aussi en masse et on avait dit, oh, ils sont ringards, ça vaut rien et tout. La revanche est là. Hein? Elle est là. Les chrétiens ont déplacé la montagne démocrate qui est devenue quelque chose de monstrueux, de monstrueux. Bon, amis de Radio Silence, nous sommes tous contents parce que Radio Silence ici avait opté pour Trump. Je suis Élise Mock, vous avez écouté Flash sur le monde et je vous dis à bientôt dans la joie.